Bonjour, bonjour, Yves au micro-micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne saurait déroger à sa tradition et qui par conséquent vous rappellera ou vous apprendra que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent. Et bien par exemple depuis 1962, date de réalisation de Diamant sur canapé qui nous sert de générique, vous l'aurez peut-être compris, un petit bijou signé Blake Edwards, George Peppard et Audrey Burns sont dans les principaux rôles et c'est notre regretté Henry Mancini qui est l'auteur de ce Moon River, oscarisé à l'époque évidemment et depuis repris de toutes les façons possibles et imaginables. Ce jour de 24 notes secondes, eh bien on va rester justement aux États-Unis, enfin on va commencer en Hongrie, ensuite on va aller aux États-Unis puisqu'on va évoquer la carrière, une toute petite partie de la carrière de Michael Curtis, né en fait Mihály Kertész à Budapest le 24 décembre 1888, mort à Hollywood, jeudi vulgache, le 11 avril 1962. L'homme a réalisé près de 180 films, excusez du peu, et du coup, comme nous allons passer, pardonnez-moi, 4 ou 5 bandes originales, et bien vraiment, c'est comme si on avait une toute petite partie d'un iceberg bien émergé, surtout qu'on va commencer avec la carrière américaine de Michael Curtis, alors que lui-même avait débuté en Hongrie dès 1912 et ensuite en Autriche à partir de 1919 et enfin en Allemagne à partir de 1925 avant en 1926 d'être appelé à Hollywood. Les Américains, et ils le font encore maintenant, sont toujours à l'affût des talents étrangers pour les transporter et souvent pour, je dirais, en édulcorer ce qui avait justifié la raison de les amener aux États-Unis. Ce n'est pas le cas de Michael Curtis qui arrive donc aux États-Unis en 1926 et qui va donc s'épanouir pendant une trentaine d'années en réalisant quelques petits chefs-d'œuvre. Il commence en 1926 avec des films muets bien sûr et il tourne son premier film parlant en 1930, ça s'appelle Mommy in English, et suivent quelques autres films. Je vous dis, avec 180 films, on a juste le temps d'effleurer la chose, et puis l'intérêt c'est quand même d'écouter de la musique, et de la musique on va en écoutant un extrait de la bande originale d'un film tourné en 1935. Donc vous voyez, on a déjà passé presque 20 ans de la carrière de Michael Curtis, mais bon, les bandes originales c'est comme ça. Le film il s'appelle Captain Blood, le héros c'en est Errol Flynn. Je vous en reparlerai, mais j'ai déjà été assez bavard. Juste un petit mot pour vous préciser que la musique de ce film elle est d'Eric Wolfgang Korngold dans 24 notes secondes. Thank you. Un bel extrait de la bande originale de Captain Blood, un film de Michael Curtis tourné en 1935 avec Errol Flynn dans le rôle principal. Alors Errol Flynn, il était australien d'origine et Captain Blood fut le premier d'un certain nombre de films dans lesquels seront réunis Errol Flynn donc, et Olivia de Havilland, de sa chérie. Et la plupart des cas, eh bien, ce sera sous la direction de Michael Curtis, puisque après Captain Blood, on verra la charge de la brigade légère, on verra les aventures de Romain Desbois, ça c'est en couleur, c'est absolument magnifique, et Les Conquérants, L'Aigle des Mers, et puis un autre film dont on va écouter un extrait, donc je ne vous divulgâche pas la chose, aux côtés donc, d'Errol Flynn et de la douce Olivia de Havilland, qui n'était pas encore un des rôles qu'il a immortalisé, la Mélanie d'Autan en emporte-vent, celle qui est si gentille, qui aime tout le monde, c'est même presque agaçant en fait par rapport à Scarlett qui est si pétillante. Et bien donc, aux côtés d'Errol Flynn et de Olivia de Havilland, il y avait quelques méchants qu'on adore, comme Basil Rathbone qui jouait le capitaine Levasseur, ou Lionel Atwill, souvent, c'est bien connu, les méchants sont plus intéressants que les gentils. Et sur le tournage de ce film, eh bien, Errol Flynn se laissait déjà aller à un penchant qui lui sera finalement fatal, la boisson, vous l'aurez sans doute compris, puisque l'homme mangeait des oranges et au bout d'un moment, eh bien, le réalisateur se rendit compte que ces oranges, il les avait préalablement injectées avec de la vodka, ce qui quand même était assez pratique, vous pouvez manger des oranges tout en buvant de la vodka, ça faisait un cocktail. Mais bon, c'était les débuts d'Errol Flynn. Grâce à Captain Blood, il devint célèbre, mais en fait, pendant toute sa célébrité et surtout après, au moment de ce qu'il faut bien appeler une déchéance, eh bien cet alcoolisme lui sera quand même assez pesant. Je vous l'ai dit, on va écouter un autre extrait d'une bande originale dans lequel on retrouve Errol Flynn et Olivia de Havilland, mais aux côtés de ces deux-là, eh bien, il y avait une actrice que Michael Curtis avait contribué d'une certaine manière à révéler dans les années 30, qui était Bette Davis. Bette Davis qui, en 1939, quand sortit donc La vie privée d'Elisabeth d'Angleterre, eh bien, était déjà une actrice extrêmement connue. Alors, pour rester sur Autant n'importe le vent, et comme bien d'autres, comme toutes les actrices en fait d'Hollywood à l'époque, elle avait auditionné pour le rôle de Scarlett O'Hara, le personnage principal, vous le savez sans doute, de Autant n'importe le vent. Elle n'en avait pas été retenue. Il paraît qu'elle a été très, très, très déçue et même en colère de la chose. Et apparemment, quand Bette Davis était en colère, il valait mieux ne pas être autour d'elle. Mais, en tout cas, eh bien, elle tint dans ce film de Michael Curtis, La vie privée d'Elisabeth d'Angleterre, le rôle de la reine Elisabeth Ière, je pense. Personnage un peu contourné, avec à ses côtés Errol Flynn jouant le comte d'Essex, dont on n'a jamais trop su quelle relation il pouvait entretenir l'un avec l'autre. Il y avait aussi Olivia de Havilland, il y avait aussi quelques autres second rôles du cinéma américain des années 30, comme Donald Crisp et Vincent Price, des noms qui ne vous disent peut-être rien, encore qu'après-guerre, Vincent Price devint un héros des films d'horreur. La musique, elle est à nouveau signée d'Eric Van Korn. Et j'ai à nouveau été trop bavard. On en écoute un extrait, La vie privée d'Elisabeth d'Angleterre dans 24 notes, secondes. un extrait puissamment langoureux de la bande originale de La vie privée d'Elisabeth d'Angleterre, The Private Life of Elizabeth and Essex. Alors Essex, il était joué par Errol Flynn, comme je vous l'ai déjà dit, mais Bette Davis, dont je vous ai déjà dit qu'elle avait son petit caractère, eh bien, elle aurait voulu Laurence Olivier comme partenaire. On peut la comprendre, parce que Laurence Olivier, il avait au moins le mérite par rapport à Errol Flynn d'être anglais, comme Lord d'Essex. Et apparemment, pendant tout le tournage, elle se dit, mon Dieu, faites que ce soit Laurence Olivier qui arrivait. Par la force des choses, eh bien, Errol Flynn et Bette Davis ne tournèrent plus jamais ensemble. Peut-être qu'Errol Flynn avait lu la critique du New York Times sortie à l'époque du film, disant que Bette Davis en Elizabeth peu attrayante, il faut dire qu'elles étaient en lady pour correspondre mieux au personnage. Bette Davis donc donne une composition d'une force et d'une détermination contre laquelle Monsieur Flynn en Essex a autant de chance qu'une pousse de haricots devant un tank. Autant dire que Bette Davis avait quand même volé la scène, comme l'on dit, c'est-à-dire pris la vedette sur Errol Flynn, qui n'a pas dû beaucoup apprécier. Quant à la douce Olivia de Havilland, eh bien figurez-vous que pendant le tournage même de La vie privée d'Elizabeth d'Angleterre, elle tournait autant en emporte le vent, puisque c'était cette même année 1939. Du coup, elle devait être bien occupée, Mélanie. On va rester avec Michael Curtis. On a un peu dévié sur les acteurs et les actrices, mais après tout, que seraient les films sans eux? Et on va revenir donc sur Michael Curtis, alors qui avait pendant les années 10, 20, 30 tourné 4, 5 films par an. Par exemple, l'année de Captain Blood, il avait tourné 3 autres films, ce qui est quand même assez conséquent, même pour un réalisateur hollywoodien. Après les années 30, eh bien, son rythme, si on peut employer le terme, faiblit, en tout cas se restreint, même s'il continua à tourner pendant la guerre, et notamment un film en 1942. Sur lequel je reviendrai, car c'est un des plus grands du cinéma, mais je ne vous divulgage pas, on va sauter quelques années, car sinon on n'arrivera pas au bout des 180 films de la carrière de Michael Curtis, et on va écouter un extrait de la bande originale d'un film tourné en 1950, donc vous le voyez bien après la guerre, qui mettait en vedette Kirk Douglas, Lauren Bacall et Doris Day. Kirk Douglas y interprétait Rick Martin, un trompettiste de jazz, dans lequel beaucoup reconnus, et ma foi, elles eurent raison, la vie d'un autre trompettiste blanc célèbre dans les années 20, Bix Beiderbecke, né en 1903 et mort alcoolique en 1931, alors même que tout le monde disait qu'il était l'un des plus grands musiciens de jazz de sa génération. Alors dans le film de Michael Curtis, eh bien, au final, Rick, alias Kirk, vous avez suivi, Kirk Douglas, se sort de ses addictions, il est sauvé par les femmes. Bon, la réalité était bien différente, mais en tout cas Kirk Douglas avait scrupuleusement tenu à apprendre à jouer correctement de la trompette. Malgré tout, c'était quand même la moindre des choses si on voulait qu'il soit un peu crédible. En anglais, le film s'appelle Young Man with the Horn, c'est-à-dire le jeune homme avec la trompette. En français, et vraiment, vraiment, allez savoir pourquoi, ça s'appelle La femme aux chimères. On ne sait pas trop. C'est vrai qu'il y a des femmes, il y en a deux. Lauren Bacall, Doris Day, Kirk Douglas, La femme aux chimères et 24 notes secondes.
Thank you.
Un extrait de la bande originale de, donc en français, La femme aux chimères, un film de Michael Curtis. Et je suis sûr que derrière votre petit pote, vous dites « Mais j'ai déjà entendu ce truc-là quelque part. » Mais évidemment, vous avez forcément entendu « The Man I Love », un des grands standards du jazz, musique de George Gershwin, parole, mais là, il n'y en avait pas, de son frère Ira. Alors, ce n'était pas Kirk Douglas qui jouait de la trompette, hein, parce que quand même, il était doué, mais pas au point de pouvoir faire illusion en vrai trompettiste de jazz. C'était un dénommé Harry James, ça ressemble à un pseudonyme, mais ce n'en était sans doute pas un, qui interprétait donc les morceaux joués par Kirk Douglas dans un film de Michael Curtis, alors qu'il continua dans les années 60 et bien sa carrière. On va écouter un extrait de la bande originale de son dernier film, mais après on reviendra sur la petite surprise que je vous ai promise tout à l'heure. Le film, c'est un western, et ma foi, ce n'est pas une mauvaise idée pour un cinéaste qui, bien que hongrois d'origine, fut un des piliers d'Hollywood entre les années 20 et les années 60. C'est quand même incroyable, entre 1926 et 1961, puisque 1961, c'est la date de réalisation des Comancheros, en français comme en anglais, pour une fois, dans lequel on retrouvait dans les rôles principaux John Wayne et Stuart Whitman. Alors, la légende à jamais invérifiable veut que John Wayne, qui venait de terminer le tournage d'Alamo, dont il avait été le réalisateur, sans doute aidé par John Ford, eh bien John Wayne aurait assisté Michael Curtis, qui était déjà très malade, pendant le tournage du film, comme apparemment d'autres, puisque d'après, là pour le coup, les faits, eh bien, le film ne fut pas terminé, par Michael Curtis, qui mourut moins de 8 mois plus tard. Je vous ai déjà donné la date de sa mort, ma foi. Il y a des nouvelles plus réjouissantes. La musique de ce film, elle était signée d'Elmer Bernstein, lui aussi un grand de la musique de films américaines, dont on n'a pas oublié la bande originale des 7 mercenaires. Je ne vais pas vous la faire, mais vous l'avez sans doute dans la tête. On écoute un extrait des Comancheros. Michael Curtis, 24 notes secondes. Je ne vous avais pas évoqué Les 7 mercenaires par hasard, un extrait de la bande originale des Comancheros, un film de Michael Curtis, le dernier film de Michael Curtis, une musique de Elmer Bernstein qui ressemble furieusement quand même à celle des 7 mercenaires. Et je vous avais dit aussi qu'on ne se quitterait pas sur une note triste, mais on va se quitter sur l'un des plus grands films de tous les temps. Et il se trouve qu'il a été réalisé par Michael Curtis en 1943. Ça lui valut d'ailleurs l'Oscar du meilleur réalisateur. Ça s'appelle Casablanca. Mais Casablanca, c'est toute la mythologie du cinéma. Il me souvient même qu'on y a consacré une émission entière de 24 notes secondes il y a bien longtemps. Il y avait Humphrey Bogart, Ingrid Bergman dans les rôles principaux et tant d'autres dans des rôles secondaires qu'on ne veut pas oublier. Paul Henriet, Claude Rains, Conrad Veidt, Sidney Greenstreet, Peter Lorre, je les cite juste pour le plaisir. Et aussi notre national Marcel Dalliot qu'on oublie beaucoup. La musique de ce film a été signée de Max Steiner. Il y aurait tellement à en dire qu'on ne va rien en dire. On va écouter un extrait de cette bande originale, Casablanca Forever, Michael Curtis. Merci à rien que pour ça, dans 24 notes secondes.
the coming of the Second World War, many eyes in imprisoned Europe turned hopefully or desperately toward the freedom of the Americas. Lisbon became the great embarkation point, but not everybody could get to Lisbon directly, and so a tortuous roundabout refugee trail sprang up. Paris to Marseille. Across the Mediterranean to Oran. Then by train or auto or foot across the rim of Africa to Casablanca in French Morocco. Here, the fortunate ones, through money or influence or luck, might obtain exit visas and scurry to Lisbon, and from Lisbon to the New World. But the others wait in Casablanca, and wait, and wait, and wait.
Voilà, je dis au revoir maintenant, comme ça sera fait. 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, see you, bye bye.